إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc alhamdulillah, le sujet dont on va parler aujourd'hui ensemble c'est ضوابط الإصلاح عند أهل السنة والجماعة، c'est-à-dire les principes et les règles de la réforme selon أهل السنة والجماعة. Et les explications qu'on va donner aujourd'hui à ce sujet-là sont tirées d'un livre écrit par un des chouyoukhs d'aujourd'hui qui vit à Mecca et qui s'appelle le Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul. C'est un des docteurs qui enseigne à l'université de al-Qura dans Kuliyat al-Da'wa wa Usul al-Din. Et donc, le Cheikh il a bien expliqué et clarifié les principes de la réforme islamique selon les principes d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, pour distinguer les méthodes de réforme qui sont utilisées par les autres qui sont sur la bid'a ou qui opposent la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et donc ça c'est bien important de comprendre que les gens d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils ont des principes bien précis pour réformer les sociétés, parce qu'ils se basent sur le Coran et sur la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur la compréhension des salaf salih, sur la compréhension des sahaba et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc on va commencer tout de suite à lire qu'est-ce que le cheikh nous a expliqué à ce sujet. Il dit « Inna at-taghyir sunnatullah fi khalqih »« Inna at-taghyir sunnatullah fi khalqih »« Wa qad ja'a fi al-hadith an al-irbad ibn Sariyah »« Qal, wa'adana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman ba'da salat al-ghada » موعظة بليغة ذفرت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك من ذلك شيئا فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Donc le cheikh il commence par nous citer le hadith d'Irbad ibn Sariyah qui nous explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une exhortation à ses compagnons, et cette exhortation là était tellement touchante qu'elle a fait pleurer les sahaba. Les larmes ont commencé à couler sur son visage, sur leur visage, et leurs cœurs se sont mis à frémir à cause de l'exhortation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Alors, un des hommes qui était présent à ce moment-là a dit « Ô messager d'Allah, la façon dont tu es en train de nous parler, c'est comme si tu es en train de nous dire adieu. C'est comme si tu es en train de nous annoncer que tu vas nous quitter bientôt. » Alors donne-nous une nasiha, donne-nous un conseil, donne-nous quelque chose qu'on peut garder lorsque tu ne seras plus avec nous. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous incite de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'écouter et d'obéir, même si celui qui va être au pouvoir sur vous sera un esclave éthiopien. Parce que celui qui vivra celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Alors prenez garde aux nouvelles choses qui sont inventées dans la religion, parce que chacune d'entre ces choses qui sont inventées dans la religion sont des formes d'égarement. Et celui d'entre vous qui vit à ce moment-là, alors qu'il s'accroche à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés, et qu'il morde dedans avec leurs dents. Pour expliquer, en fait, pour exprimer qu'ils doivent s'accrocher fermement à cette chose. Et le cheikh, il dit, وَمَحَلُّ الشَّاهِدْ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَهَذَا مَعْنَاهُ حُدُوثُ تَغَيُّرٍ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ويدل على صحة ما ذكرته لك ما جاء عن سالم قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت أغضب ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله يصلون جميعا أي مجتمعين وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات. Le cheikh il a mentionné que le point sur lequel il a voulu mettre de l'importance dans ce hadith, c'est la partie où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui vivra après vous verra beaucoup de divergences. » Et donc, le cheikh il dit ça, c'est, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses vont changer par rapport à l'ordre dans lequel les choses se produisaient et les choses étaient établies à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui indiquent la véracité de ce qu'on vient d'expliquer, il y a la narration qui a été rapportée par Darda, la femme de Abu Darda, radiyallahu anhuma. Elle a dit, lorsque Abu Darda est entré il est rentré à la maison, il est entré et il était en colère. Alors, Darda, radiyallahu anha, elle dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui t'a mis en colère? Alors, Abu Darda, il dit, je ne connais rien ou je ne reconnais rien de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, excepté le fait qu'ils prient ensemble. Et Al-Hafiz ibn Hajar, il explique, c'est-à-dire il prie réunis, il prie ensemble, en jama'a. Ils font les salawat ensemble. ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. انتهى كلام الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce que Abu Darda a voulu dire lorsqu'il a dit la parole qu'il a dit, qu'il n'a rien reconnu de ce qui se faisait à l'époque, excepté le fait que les musulmans priaient ensemble. Il dit que la signification de ça, c'est que les actions des gens qu'il a mentionnées, en général, elles avaient subi quelques disons manquements ou diminutions dans leur perfection ou dans la façon dont elles étaient accomplies par rapport à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elles n'étaient plus appliquées de la même manière, dans le même degré d'intensité ou de perfection dans laquelle elle était accomplie à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une chose qui est relative. Donc le cheikh il dit que les gens à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Yani leur état était plus complet et plus parfait que qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Et à l'époque de Shaykhan, c'est-à-dire à l'époque d'Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhuma, eh bien, la situation et l'état des musulmans étaient encore plus complètes que qu'est-ce qui est arrivé par, qu'est-ce qui a suivi par la suite. Et le Cheikh, il explique que, qu'est-ce que Abu Darda a dit, c'était probablement par rapport à qu'est-ce qui est arrivé vers la fin de sa vie. Hein, lorsqu'il était devenu plus âgé et vers la fin de sa vie, il a vu qu'il y avait de plus en plus de changements ou d'imperfections ou une diminution dans, disons, la qualité dans laquelle les musulmans, ou dans la qualité avec laquelle les musulmans accomplissaient leurs obligations. Et il dit que c'était probablement vers la fin du khilafat d'Othman. Donc il dit, si c'était le cas à l'époque, alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à notre époque, et ça c'est l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui est né, qui vivait dans le 10e siècle, et le 10e siècle Hijri, il est en train de dire ça. Alors il dit, qu'est-ce qu'on peut dire à notre époque, c'est-à-dire à l'époque de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'on peut dire de notre état à notre époque? Et qu'est-ce qu'on peut dire à notre époque, à nous, aujourd'hui c'est encore plus, hein, par rapport à l'époque de Abu Darda ou l'époque de l'imam ou du Cheikh Al-Hafiz Ibn Hajar. فالتغير حاصل في الأمة ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم فيما جاء الخبر عن تجديد الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. Le Cheikh il a dit, et donc, étant donné que le changement, c'est quelque chose qui doit arriver dans la Ummah, il faut prendre en considération l'aspect de réforme et de renouvellement de la religion. At-tajdid. Dans le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu dans Sunan Abi Dawud, et c'est un hadith qui est authentique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala allait susciter à la tête de chaque 100 ans quelqu'un qui va venir renouveler sa religion. Et le cheikh il dit wal murad min at-tajdid kama bayyanahu fi 'un al-ma'bud إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات. Donc le Cheikh il explique que la signification du mot at-tajdid, contrairement à ce que certains mubtadi'a aujourd'hui essaient de faire comprendre aux gens, qui essaient de faire comprendre aux gens que la at-tajdid, ça veut dire qu'on doit changer la compréhension de l'islam qu'on a aujourd'hui et réinterpréter l'islam pour que ce soit en accord avec l'ère moderne. Ça, c'est une fausse compréhension du tajdid. La vraie notion, la vraie signification de tajdid, selon les explications du Cheikh, comme c'est expliqué dans Aoun al-Ma'boud, le Sharh de Sunan Abi Dawud, c'est de faire revivre ce que les gens ont délaissé et ont oublié de la pratique du Coran et de la Sunna, et de purifier et de faire mourir la religion de toutes les innovations et de toutes les nouvelles choses qui ont été rajoutées dedans, et de faire mourir ces innovations-là. Hein? C'est ça la signification de At-Tajdid dans l'islam. C'est pas d'inventer une nouvelle compréhension de la religion pour que ce soit en accord avec les passions et les désirs des koufars aujourd'hui, comme certains essaient de nous le faire comprendre. Mais c'est de purifier la religion des innovations et des changements qui ont été instaurés à l'intérieur, et, comme le Cheikh il l'explique, de faire revivre la Sunna et le Coran dans l'application des gens et dans leur compréhension. فالتغير والاختلاف عما كان عليه الأمر الأول حاصل عاجله وعلاجه بالرجوع إلى الدين وهو الإصلاح. Et le Cheikh dit donc que le changement dans la religion et les divergences au sujet de la religion, c'est quelque chose qui doit se produire, c'est-à-dire ça fait partie de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Toutefois, le remède de ces changements-là, c'est de revenir à la religion telle qu'elle avait été amenée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de réformer la situation, de faire al-islah. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Comment on doit faire cette réforme? Le cheikh dit « الضابط الأول أن موضوع الإصلاح الأول هو الأول والأساس هو عبادة الله وتوحيده وهذه هي دعوة الأنبياء إذ كل نبي أرسله الله إلى قومه بهذا الموضوع وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Donc le cheikh dit que le premier principe pour faire la réforme de la Umma, c'est premièrement de commencer par la réforme de la base et du premier des fondements de l'islam, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'unification de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'établir le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la da'wah de tous les prophètes. Tout prophète que Allah a envoyé à son peuple, ils ont commencé par ce principe-là dans la réforme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 36, dans surat al-Nahl, nous avons suscité dans chaque nation un messager pour dire aux hommes, adorez Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous du tarout. Écartez-vous de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre ayah. Il dit, فَهَذَا نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامِ يَقُولُ تَعَالَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَهَذَا هود عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى مدين أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول تبارك وتعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc le cheikh il nous fait l'énumération des différents messagers qui sont venus à leur peuple respectif pour les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont tous commencé par cet appel de dire que vous devez adorer Allah subhanahu wa ta'ala et vous n'avez en dehors de lui aucune, que vous pouvez rien adorer en dehors de lui. Malakum min ilahin ghayru. Et il donne donc l'exemple de Nuh alayhi salam dans le verset 59 dans surat al-A'raf. Lorsque Noé a dit à son peuple, il a dit, oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de ilah en dehors de lui. Vous n'avez rien que vous devez adorer en dehors de lui. Et je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Et à Houd, la même chose. Et à Ad, on a envoyé leur frère Houd. Et il a dit, oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien à adorer en dehors de lui. Vous ne devez adorer rien d'autre que lui. Et la même chose pour Salih. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et pour Thamud, leur frère Salih. Et il a dit, oh mon peuple, vous n'avez rien que vous devez adorer en dehors de lui. Et les preuves claires vous sont venues de votre Seigneur. Et voici la chamelle d'Allah. Et c'est un signe pour vous. Alors laissez-la manger de ce qu'elle veut de la terre. Et ne la touchez pas avec aucun mal. sinon un châtiment dur vous atteindra. Et la même chose pour Shu'aib. Hein, Allah SWT a dit dans le verset 85 dans Surah Al-A'raf, et vers le peuple de Madian, on leur a envoyé Shu'aib. Et il a dit, ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez rien à adorer, vous n'avez rien que vous devez adorer en dehors de lui. Et les preuves claires vous sont venues de votre Seigneur, alors respectez ce que vous vendez ou ce que vous donnez, c'est-à-dire dans la balance et dans les quantités lorsque vous vendez quelque chose. Ne dérobez pas les biens des gens lorsque vous faites du commerce avec eux et ne faites pas de corruption sur la terre une fois que la terre a été réformée. Voilà, voilà le bien que vous devez faire si vous êtes des croyants. Et la même chose à Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 16 dans Surat al-Ankabut, et Ibrahim, lorsqu'il est venu à son peuple, il leur a dit, adorez Allah et craignez-le, c'est une chose qui est bonne pour vous si seulement vous saviez. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن عن ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعو إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد إلى فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس هذا هو ما خلق الله تعالى الجن والإنس له وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et donc le cheikh il mentionne que c'est par cet exemple-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a débuté également en envoyant Mu'adh ibn Jabal au Yémen. La première chose à laquelle il a appelé les gens lorsqu'il a ordonné à Mu'adh d'aller là-bas, il a dit, selon Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, aux gens du Yémen, il leur a dit, tu t'en vas vers des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les invites soit de unifier Allah subhanahu wa ta'ala, an yuwahidullah. Et dans une autre narration, il a an yashhadu an la ilaha illallah. D'accord? Donc ça, ça montre que c'est la priorité dans l'appel. Et ensuite, il leur a rappelé les autres principes de l'islam, comme l'établissement des cinq prières par jour, et de payer la zakat, et ça c'est des choses qui viennent par la suite lorsque les gens ont accepté le tawhid. Et le cheikh dit c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes pour qu'ils adorent Allah seul, comme il dit dans le verset 56 dans Surat al-Zariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. فالذين يدعون إلى الإصلاح ويجعلون دعوتهم الإصلاحية في القضايا السياسية وفي القضايا الاقتصادية وتوزيع الثروة أو نحو ذلك فهؤلاء عملوا عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد عليهم فمن أراد الإصلاح ولم يجعل هذا هو موضوعه ومقصده فقد خالف منهج الأنبياء وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة فانظر في من يزعم الإصلاح ويتسمى باسمه في هذه الأيام تجده مخالفا لهذا الضابط أشد المخالفة فتوزيع الثروة هجيره ليل نهار أو هجيراه ليل نهار ومنازعة الأمر أهله ديدنه فلا شأن له مع هذا الضابط أصلا إلا من باب ذر الرماد في العيون كما يقولون. Donc le cheikh il dit, regarde aux gens, regarde, observe les gens aujourd'hui qui appellent à la réforme. Et tu vas voir que la plupart des choses auxquelles ils appellent sont des réformes dans les questions de politique ou dans les questions d'économie ou dans les questions de la redistribution des biens et des richesses ou des choses de ce genre. Et donc ces gens-là, quand ils appellent à ce genre de réforme et qu'ils suivent cette méthodologie-là qui est contraire à la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc cette méthode de réforme, elle est rejetée, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas valable. Et le cheikh il dit donc, celui qui veut faire une réforme de la société et qu'il ne prend pas ce sujet du tawhid et de l'unicité d'Allah comme étant son sujet fondamental et principal et son objectif principal et primordial, alors il a contredit la méthodologie des prophètes et il a abandonné la réforme légale et qui est en accord avec la charia selon Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Et donc le chef il donne des exemples, il dit regardez aujourd'hui ceux qui appellent à la réforme et qui prétendent vouloir faire des réformes et qui s'appellent les réformistes ou qui se donnent des titres de ce genre, hein, les modernistes ou les réformistes, etc. Et vous allez voir qu'ils sont les premiers à contredire ce principe, le premier principe qu'on vient d'expliquer maintenant, et qu'ils le contredisent fondamentalement et principalement. La seule chose à laquelle ils appellent, c'est, disons, de redistribuer les richesses. Hein? Et parfois vous avez certains islamistes, quand ils font leur da'wa et quand ils font leur prêche de l'islam, ils vous interprètent l'islam d'une interprétation socialiste ou communiste, et ils essaient de vous faire croire que c'est ça la réforme. Et ça c'est une déformation de la réalité de l'islam, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a beaucoup de jama'at et de groupes aujourd'hui qui ont adopté ce discours, parce que ce discours est plaisant pour les masses. Et eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, c'est de rassembler et d'attirer le plus grand nombre de personnes, sans prendre en considération leur aqidah, leur compréhension, leur adoration. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Est-ce qu'ils sont sur le tawhid? Est-ce qu'ils sont sur la sunna ou non? Et donc ça c'est très important. De même que certains autres groupes, parmi les groupes qui prétendent vouloir faire la réforme et qui prétendent vouloir appeler à l'islam, se concentrent sur le fait de disputer aux dirigeants l'autorité et le pouvoir qu'ils détiennent. Hein? Et en ça, ils ont imité la voix des khawarij, hein, et des gens de bid'a à ce sujet-là, puisqu'ils ont voulu opposer et essayer de disputer aux dirigeants leur pouvoir et leur autorité. Et ça c'est en contradiction avec un nombre très très grand de hadiths authentiques qui nous incitent justement à ne pas disputer le pouvoir à ceux qui le détiennent, et d'écouter et d'obéir, comme on l'a vu dans le premier hadith qu'on a lu lorsqu'on a commencé aujourd'hui. Fa'alaykum, avant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fa'alaykum, il a dit, نعم فعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد donc écoutez et obéissez, même si celui qui est au-dessus de vous et qui est votre chef est un esclave. Donc peu importe, c'est d'écouter et d'obéir. Et c'est par ça que juste après avoir parlé de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite après il mentionne l'écoute et l'obéissance du dirigeant, et de ne pas essayer de l'opposer, d'accord. Et le cheikh il dit donc que ça c'est le discours de ceux qui sont en train de prétendre vouloir faire une réforme ou de vouloir appeler à l'islam parmi les islamistes aujourd'hui, et c'est ça que vous trouvez leur discours parmi les différents groupes que vous connaissez sûrement, comme des groupes de Ikhwan ou des autres tendances de ce genre, et c'est ça leur première priorité, et ils font ça pour lancer de la poudre aux yeux, dans les yeux des gens. Abbab et Tufani, le deuxième principe de la réforme, al-islahu yabda'u min al-farq, la min al-mujtama', wa la min al-hakim, wa la min ghayrihi, innama kullu insanin yabda'u binafsihi, fa yuslihuha adnahu fa adnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال فالبدء بالنفس ثم الأقرب فالأقرب قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. Le cheikh dit le deuxième principe de la réforme selon أهل السنة والجماعة, c'est que tu dois commencer la réforme par l'individu et non par la société, et non par le dirigeant, et non par quiconque autre que l'individu. Chaque individu doit commencer par lui-même, en se réformant lui-même en premier, et ainsi de suite. Et il mentionne le verset 11 dans Sourate Al-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que ces gens-là aient changé ce qui est en eux-mêmes. Et donc ça c'est le principe qui nous aide à comprendre qu'on commence la réforme de l'individu par l'individu lui-même. Et on commence par soi-même, puis par nos proches. Hein? ثُمَّ الْأَقْرَبْ فَالْأَقْرَبْ. Et il mentionne le verset 214 dans Surat al-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et avertis les proches de ta famille. Donc ça sert à rien de vouloir changer la société, vouloir changer le pays, vouloir changer la Ummah, et puis tu commences même pas par toi-même. Et puis tu commences même pas par ta maison. Qu'est-ce qui se passe dans ta propre maison? Tu l'as même pas corrigé. Hein? Peut-être que chez toi, les gens sont en train d'écouter la télévision du matin jusqu'au soir. Ils regardent n'importe quoi. Et des fois, le père et la mère, ils sont assis devant la télévision avec les enfants. Et puis, il y a des images qui sont en train de se montrer, des choses qui sont honteuses. Et personne n'ose changer le poste de la télévision parce que tout le monde est gêné. Ils ne savent plus comment réagir. Et souvent, dans certaines maisons, Allah al-Musta'an, les gens, ils placent la télévision dans le centre, la pièce principale, là où tout le monde se réunit. Ça, c'est dans certaines demeures, on a vu des choses pareilles. Soit dans la salle à manger, ou soit dans le salon, et des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'ils regardent dans ces émissions? C'est souvent des choses qui viennent de l'extérieur, avec les satellites et tout. Et c'est souvent des images qui amènent de la perversité, de la corruption dans les maisons des musulmans. Et l'influence est plus dangereuse quand on le voit de loin que lorsqu'on est en train de le vivre en plein milieu de ces gens-là. Hein? Parce que c'est quelque chose qui t'est montré et on te montre seulement qu'est-ce qui est en apparence, mais tu vois pas la réalité des choses, comment les choses se produisent là-bas. Donc tu te fais des imaginations. Hein? Et ça c'est très dangereux. Les effets de ça sont remarquables dans les sociétés. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et le Cheikh il dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تصدقوا, فقال رجل, يا رسول الله, عندي دينار, قال تصدق به على نفسك, قال عندي آخر, قال تصدق به على زوجتك, قال عندي آخر, قال تصدق به على ولدك, قال عندي آخر, قال تصدق به على خادمك, قال عندي آخر, قال أنت أبصر. فإذا كان هذا في باب الصدقة فما بالك من أمر الإصلاح. فطريق الإصلاح يبدأ بالفرد, وصلاح الفرد صلاح الأسرة, وصلاح الأسرة صلاح الحي, وصلاح الحي صلاح البلد, وصلاح البلد صلاح الدولة, وصلاح الدولة صلاح الأمة, وصلاح الأمة صلاح الأرض جميعا. فالبدء بالنفس هو الأساس. Donc le cheikh il donne un exemple en mentionnant un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i et Abu Dawood et qui dit selon Abi Huraira radiallahu anhu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais des aumônes ou donne en sadaqa. Alors l'homme a dit, ô messager d'Allah, j'ai un dinar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors fais-toi une sadaqa à toi-même. Et il a dit, j'en ai un autre dinar. Il a dit, alors fais une sadaqa à ta femme. Il a dit, j'ai un autre dinar. Il a dit, alors fais une sadaqa à ton enfant. Il a dit, j'ai un autre dinar. Il a dit, alors fais une sadaqa à ton servant. Et il a dit, et j'ai un autre dinar. Il a dit, alors c'est toi qui décides après. Et le cheikh, il dit, il utilise ce hadith-là pour donner l'exemple. Et il dit donc, si c'est le cas pour les questions de sadaqa, qu'on commence par soi-même, puis ainsi de suite, alors que dire des questions de réforme? C'est encore la même chose. Et donc le cheikh il dit que la façon de réformer commence par l'individu. Puis ensuite, si on a réformé l'individu, on va réformer la famille. Puis si on a réformé la famille, on va réformer le quartier. Et si on a réformé le quartier, on va réformer la ville. Et si on a réformé la ville, on va réformer le pays entier. Et si on a réformé le pays en entier, eh bien par la suite on va réformer la dunya, la umma au complet. Et donc, le cheikh il dit, par la suite, on va réformer la terre entière. Et il dit, c'est de cette manière qu'il faut commencer. فَبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَنْهَهَا عَنْ غَيِّهَا فَإِنْ انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمٌ. et il cite un vers dans lequel il y a la mention justement du fait que tu commences par toi-même en interdisant à ton âme de faire ce qu'elle désire faire, et si tu réussis à l'arrêter, et donc dans ce cas-là tu es une personne qui est sage et qui a atteint la sagesse. الضابط الثالث العلم قبل القول والعمل. Le troisième principe de la réforme en islam, c'est que la science vient avant la parole et l'action. Et ça, on en a parlé plusieurs fois dans les conférences précédentes, et on va donc faire un petit résumé, un petit rappel de ce que le cheikh nous donne à ce sujet-là. Il dit « وَقَدْ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ كِتَابُ الْعِلْمِ باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم. Le cheikh nous donne des exemples à suivre ou des exemples à comprendre pour savoir de quelle manière on peut comprendre l'importance de la science, et que la science, la connaissance vient avant les paroles et les actions. Donc il dit que l'imam al-Bukhari, il a dit dans son sahih, dans le livre al-ilm, kitab, le livre de la science, il a mentionné dans un des chapitres de ce livre, dans sahih al-Bukhari, al-ilm, la science vient avant la parole et l'action. Et il a mentionné comme preuve le verset 19 dans sourate Muhammad, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « Sache qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah ». Donc il a commencé par dire un verbe, utiliser un verbe impératif qui nous ordonne d'apprendre, de savoir, de connaître. Et donc ça nous indique l'importance de la science. Il a commencé par la science avant de parler des autres choses. واستغفر لذنبك les actions et les paroles. Après, le cheikh il mentionne des paroles qui sont à la base des hadiths, mais il les cite comme ça, comme étant des rappels. Il dit que les ulama sont les héritiers des prophètes, les savants de l'islam sont les héritiers des prophètes, et les prophètes, ils n'ont pas laissé rien en héritage excepté la science. Et celui qui a pris cet héritage, il a pris la meilleure et la plus grande des portions. Et celui qui prend un chemin dans lequel il va chercher la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter une voie vers le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 27 ou 28 dans Surat Fatir, il dit, c'est uniquement les ulama parmi les serviteurs d'Allah qui le craignent réellement. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Donc si tu veux être parmi ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 43 dans surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ. C'est uniquement ceux qui ont la science qui peuvent réfléchir et comprendre les signes et les exemples que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans sa révélation. Et il mentionne le verset 10 dans surat Al-Mulk, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et à propos des kuffars lorsqu'ils rentrent en enfer, ils disent, et si nous avions écouté, et si nous avions utilisé notre aql, notre raison, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Et donc c'est pour nous montrer l'importance de la raison et d'utiliser la raison et d'apprendre. Le verset 9 dans Surat Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas? هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith authentique apporté par Al-Bukhari, et celui pour qui Allah صلى الله عليه وسلم, ou celui à qui Allah صلى الله عليه وسلم veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. يفقهه في الدين. Et le chef il mentionne également une autre parole qui est aussi extraite d'un hadith. إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمُ. Tu ne peux acquérir la science qu'en apprenant et en étudiant la science. C'est pas comme certains qui s'imaginent que la science descend directement dans leur cœur, ils n'ont pas besoin d'aller et d'étudier. Comme les soufis, par exemple, qui disent que la science, ça vient pas par là, par l'apprentissage et l'étude, ça vient comme une inspiration qui descend directement dans le cœur de quelqu'un, sans qu'il n'ait à faire des efforts pour essayer d'étudier et de rechercher la science. Le cheikh, il mentionne ensuite une autre parole. Il dit, وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه أشار إلى قفاه ثم قال ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. Donc, qu'est-ce que ça signifie cette parole? Ça dit que Abu Dharr, radiallahu anhu, il dit, si vous auriez mis cette épée dans mon cou, et que je pense que j'aurai le temps de prononcer une parole que j'ai entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que vous m'ayez tué, je l'aurais prononcé cette parole, et je l'aurais transmis cette connaissance. C'est-à-dire que les sahaba, ils ne gardaient rien et ne cachaient rien de la science. Et qu'il transmettait tout. Il dit, si je savais que vous alliez me tuer, que vous alliez me frapper le cou avec un épée, eh bien j'aurais prononcé la parole que j'ai entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que vous m'ayez tué pour être sûr que cette parole soit transmise. Et il dit, وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء وفقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Donc le cheikh dit également que Ibn Abbas, quand il a parlé du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُونُوا رَبَّانِيِينَ, et soyez des éducateurs, soyez des savants et soyez des éducateurs, c'est-à-dire des gens qui ont الحلم, qui sont des fuqaha et des hulama, qui ont de la compréhension. Et al-Rabbani, les ulama ont expliqué également que al-Rabbani, c'est celui qui commence à éduquer les gens en commençant par les degrés qui sont plus bas de la science pour monter. C'est-à-dire, dans le sens, c'est pas dans le sens des plus bas, du degré le plus bas de la science, mais dans le sens des choses les plus, simples et les plus élémentaires, les choses de la base. Il commence par les choses faciles, puis il graduellement, il monte dans la complexité et la grandeur des explications qu'il donne. Donc, il éduque les gens auxquels il s'adresse, étape par étape et de façon graduelle. Il ne saute pas des étapes avec les gens quand il les éduque dans la religion. وَالدِّينَ مَبْنَاهُ عَلَى أَصْلَيْنِ أَلَّا نَعْبُدْ إِلَّا اللَّهِ وَأَلَّا نَعْبُدْ وَأَلَّا نَعْبُدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Donc le cheikh il dit que la religion elle est basée sur deux fondements et deux principes. Premièrement, qu'on adore rien d'autre qu'Allah. Et deuxièmement, on adore Allah uniquement par qu'est-ce qu'il nous a légiféré, par la révélation. وَمَعْنَ هَذَا الضَّابِطِ أَنَّ عَلَى دَاعِيَةِ الْإِصْلَاحِ أَنْ يَحْرِسْ تَمَامَ الْحِرْصِ فيما يقوله أو يفعله أن يكون فيه على ثبت فيبني ما يصدر منه على يقين من الدليل فلا يسلك مسلكا يزعم أنه طريق للإصلاح إلا وهو يعلم أنه مما شرعه الله فلا يخالف فيه السنة فلا يقف على المنابر ويتكلم على ولاة الأمور زاعما أن هذا إصلاح لأن هذا خلاف ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن عياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. Donc le cheikh explique que la signification de ce principe, de ce troisième principe qu'il vient d'expliquer, c'est que la personne qui appelle à la réforme, il doit faire son possible, hein, il doit faire beaucoup d'efforts pour que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait soit basé sur quelque chose de ferme et d'établi dans la religion. Et donc, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est basé sur la certitude que ce qu'il dit est basé sur une preuve. Et donc, il ne va pas suivre un chemin ou une voie qu'il considère ou qu'il s'imagine lui-même être une voie vers la réforme, c'est-à-dire qu'il sache que ce qu'il utilise comme méthode pour faire la réforme est en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et il ne contredit pas dans cette voie-là la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'individu qui veut la réforme ne va pas monter sur le minbar et commencer à parler au sujet des dirigeants et critiquer les dirigeants en pensant que cette façon d'agir fait partie de la réforme et qu'il va corriger les problèmes en utilisant cette méthode-là. Parce que ça, c'est la méthode des gens qui amènent à la fitna, qui amènent aux problèmes et qui sèment le désordre dans la société. Et il y en a parmi les musulmans qui pensent que ça, c'est la voie de la réforme. Ils pensent que celui qui est courageux, qui n'a pas peur, il monte sur le minbar et commence à parler contre le dirigeant et à mentionner les fautes et les erreurs et les injustices du dirigeant. Et ils pensent que c'est la réforme de faire ça. Et ça, c'est totalement contraire à la réforme. Au contraire, celui qui fait ça, il ne fait pas de réforme, il fait la corruption sur la terre. Parce qu'il sème le désordre et qu'il amène la fitna entre les gens. Il met la haine du dirigeant dans le cœur de la population. Et est-ce que vous pensez que ça va arranger les problèmes? Jamais. Au contraire, ça va augmenter la dissatisfaction, c'est-à-dire le fait que les gens sont insatisfaits, ça va augmenter ce sentiment-là dans leur cœur. Et ça peut les amener même à commettre des actes qui sont plus graves par la suite. Et le cheikh, il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Abi Asim dans Kitab al-Sunnah. Il dit quoi dans ce hadith? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Ayyad ibn Ghanam, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut donner le conseil aux dirigeants alors qu'il ne le fasse pas ouvertement, celui qui veut donner une nasiha ou donner un conseil aux dirigeants, qu'il ne le fasse pas ouvertement et publiquement, mais qu'il le prenne par la main et qu'il soit en privé avec lui et qu'il lui donne la nasiha de cette manière. S'il accepte de lui, alors ça c'est bien, alhamdoulilah. Et s'il n'accepte pas, il a rempli son devoir. C'est-à-dire que si le dirigeant n'accepte pas la nasiha, alors toi tu as rempli ton devoir et tu as fait ce que tu avais à faire. Et au jour de la résurrection, tu n'as plus de compte à rendre à ce sujet-là devant Allah parce que tu as donné la nasiha au dirigeant. Mais celui qui monte sur le minbar et qui commence à crier, et commence à parler contre le dirigeant et à l'insulter ou à dire des péchés qu'il a fait, eh bien celui-là, il n'a pas voulu la nasiha, il n'est pas sincère. Il fait ça pour se montrer devant les gens, pour avoir la fierté, pour avoir la popularité chez les gens, pour que les gens disent: oh, regardez, lui, il est fort, il est courageux, il n'a pas peur de critiquer. Mais ce n'est pas la voie de la sincérité. Et ce n'est pas la voie de la réforme d'agir de cette manière. Et donc, on voit dans ce hadith un exemple. Et il y en a parfois, hein, pour ajouter un peu de clarification à ce sujet, il y en a des fois qui vont mentionner un hadith. أكبر الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. Ils vont mentionner ce hadith, hein, que le plus grand jihad, c'est de dire une parole de vérité chez un dirigeant injuste. Et comme le hadith le dit, il faut que tu sois chez lui, que tu es en face de lui, là tu lui dis qu'il fait une injustice. C'est pas quand tu es à des kilomètres et que tu parles derrière son dos et tu fais le riba et le namima au sujet du dirigeant. Si on n'a pas le droit de faire le riba à propos d'un musulman en général et de parler dans son dos, comment on aurait le droit de parler dans le dos du dirigeant? Toi, si quelqu'un parle à ton sujet dans ton dos, tu vas être fâché. Si quelqu'un t'informe et te dit, un tel il a dit des choses dans mon dos, ou bien il a parlé dans ton dos, toi tu vas te mettre en colère à ce sujet-là. Donc comment tu vas accepter de parler dans le dos de celui qui est ton responsable et ton dirigeant? Et ça c'est une responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur cet individu-là, sur ce dirigeant-là. Et chacun d'entre nous, on aura des comptes à rendre. Donc le cheikh dit « وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَا يَسْعَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِصْلَاحِ طَرِيقِ الْمُظَاهَرَاتِ لأنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة السلف الصالح وهكذا لا يقول ولا يعمل إلا بالعلم فالعلم قبل القول والعمل. Le cheikh dit, et il n'utilise pas pour essayer de faire des réformes, il n'utilise pas la méthode des manifestations. Il va pas sortir dans les rues, commencer à crier, commencer à chanter des slogans, commencer à insulter avec des bannières et des pancartes, ou dire il faut se révolter, ou appeler à la grève, ou des trucs de ce genre. Ça, c'est pas la méthodologie des salaf salih. Et c'est pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a pas enseigné de faire le façade ou de faire la fitna dans la société. Le cheikh, il dit donc, que si tu veux donc faire la réforme, il faut que tu fasses ta réforme avec la science et la connaissance de la sunna. Et donc la science, elle doit venir avant les paroles et avant les actions. Parce que ces gens qui font ces choses-là, ils font des manifestations au nom de l'islam, ils font des grèves au nom de l'islam, et il y en a maintenant qui appellent au vote et aux élections et aux trucs de ce genre, au nom de l'islam. Et donc c'est pour ça qu'il faut retourner et ramener chaque chose au Coran et à la Sunna. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ça? Est-ce que c'est dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que les sahaba nous ont enseigné de faire cette chose-là? Non. Hein? Et donc c'est pour ça que maintenant les musulmans, ils discutent, ils parlent, ils font de la philosophie au sujet des principes et de la voie. Pourquoi? Souvent parce qu'ils suivent les exemples des kuffars. Les koufas de l'Europe et de l'Amérique, et ils veulent suivre leur modèle et leur exemple, au lieu de ramener leurs disputes et leurs divergences au Coran et à la Sunna pour savoir comment régler nos problèmes. Ils veulent régler les problèmes par d'autres problèmes au lieu de régler les problèmes par le Coran et par la Sunna. Et c'est ça le danger et le problème. Et donc le cheikh Bazmoul ici, il nous donne des directives et des principes pour nous faire comprendre comment faire cette réforme si on veut réellement faire une réforme selon le Coran et la Sunna. Al-Dabit al-Rabi', et c'est la dernière règle, le dernier principe de la réforme, أن يكون عمله على منهج السلف الصالح وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترقوا على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة فلا سلامة في نهج إلا ما كان عليه الجماعة وهذا سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فمن أراد العلم فليلزم سبيل المؤمنين حتى لا يسلك مسالك أصحاب الفرقة والاختلاف من الفرق المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم هذه هي ضوابط الإصلاح التي إذا خالفها من ادعى الإصلاح إنما كان من المفسدين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
Donc le cheikh il dit dans le quatrième principe, quatrième règle de la réforme, il dit que cette réforme elle doit être faite selon la méthodologie des premiers musulmans, des salaf salih, des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis dans leurs croyances, dans leurs actions, dans leurs pratiques, dans leurs paroles et dans leurs adorations, ainsi de suite.
Et le cheikh il mentionne des paroles de Muawiyah ibn Abi Sufyan, hein, c'est un hadith qui est rapporté selon Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Il s'est levé parmi nous et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi nous et il a dit, ceux qui étaient avant vous parmi les gens du livre se sont divisés en 72 sectes. Et cette umma ou cette mille-là va se diviser en 73 sectes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'il y allait avoir de la division. Qu'il y allait avoir de la division entre les différents musulmans et que 73 sectes allaient apparaître. 72 d'entre elles seraient en enfer et une seule serait au paradis. Et quand il a expliqué laquelle d'entre elles ça allait au paradis, il a dit que c'est Al-Jama'a. Vous savez, Al-Jama'a, c'est le groupe, si on le traduit littéralement. Et donc, yani, bien entendu, comme Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a expliqué, que Al-Jama'a, c'est que tes actions soient en accord avec la vérité. Même si tu es seul, tu es la Jama'a. La jama'a, c'est pas une quantité, une majorité. C'est pas qu'est-ce que la majorité des musulmans disent ou font. La jama'a, c'est d'être en accord avec le Coran, et d'être en accord avec la sunna, et d'être en accord avec la voix des sahaba. Donc, si tu veux savoir que tu es sur la bonne voie, et que tu es sur la vérité, tu dois voir est-ce que tu es sur une preuve du Coran et de la sunna, et est-ce que ce que tu suis fait partie de la voie des croyants, des sahaba, sabil al-mu'minin, comme Allah dit dans le verset 115 dans surat al-Nisa, et celui qui s'oppose au messager, une fois que la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants, et la voie des croyants ici, c'est la voie des sahaba, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les croyants? C'était les sahaba. Et donc, la voix des croyants qu'on mentionne dans ce verset-là, c'est la voix des sahaba. Donc celui qui, non seulement, yani, s'oppose au messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus de s'opposer au messager, il suit autre que la voix des sahaba. Donc ça prouve que de suivre la voix des sahaba, c'est une condition aussi pour être bien guidé. Tu peux pas dire, je vais prendre juste l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis je vais pas prendre l'exemple des sahaba, non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous ordonne de suivre l'exemple des sahaba. Hein? Il dit, nuwallihima tawalla. On va les laisser se détourner. Comme ils se sont détournés de la vérité, et on va le brûler dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, le cheikh dit, celui qui veut être sur la voie des mu'minines, pour être sûr qu'il ne suit pas une des voies parmi les voies de la division et de la divergence, parmi les sectes qui se sont opposés et qui ont contredit ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi, de même que ses compagnons, radiallahu anhum, alors il doit faire en sorte que ce qu'ils suivent soit en accord avec ce que les sahaba ont amené. Ce qu'il dit doit être en accord avec le Coran et la sunna et avec la voix des sahaba. Et ce qu'il fait doit être en accord avec le Coran et la sunna et la voix des sahaba. Et il ne doit pas s'allier ou être en alliance avec les gens de Bid'a, et les gens qui opposent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de Bid'a comme les Khawarij, les gens de Bid'a comme les Soufiyas qui appellent à l'égarement, et les Jama'at contemporaines également,
qui contredisent la Sunna, comme les groupes des Ikhwan et les groupes de Tablir ou les autres groupes et les autres Jama'at qui ont contredit le Coran et la Sunna dans leur manhaj, dans leur aqida et dans leur façon de suivre l'islam ou de comprendre l'islam. Donc le cheikh il dit les principes qu'on vient d'énumérer, qu'on vient de clarifier, si tu vois quelqu'un parmi les gens d'aujourd'hui qui prétend vouloir appeler à une réforme quelconque et qui contredit les principes qu'on vient de mentionner aujourd'hui, alors sachez qu'il n'est pas parmi, il ne fait pas partie des réformateurs, mais il fait partie des gens qui mènent qui amènent la corruption et qui sèment le désordre sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à leur sujet dans Surat al-Baqarah, le verset 11 et 12, en parlant des hypocrites, et lorsqu'on leur dit « ne semez pas le désordre sur la terre », ils disent « non, nous ne sommes que des réformateurs ». Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond en disant « certes, ce sont ceux-là les gens qui sèment le désordre et qui font la corruption, mais ils ne s'en aperçoivent pas ». Et donc si vous voyez des gens qui appellent à autre chose que les principes qu'on vient de mentionner dans les questions de la réforme, eh bien ceux-là, ils ne font pas la réforme, mais ils font la corruption et la désordre sur la terre. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين